Salut tout le monde, bienvenue aux Curieuses. Aujourd'hui, dans le super musée à Vanesse, on va parler de...
Caverne! On va parler de spéléologie et c'est pourquoi j'ai mis mon chandail brun couleur terre.
La terre! Mais j'ai failli mettre mon chandail brun aujourd'hui. Ben, j'aurais dû mon...
pour rappeler la couleur de la terre dans les cavernes.
Mais attends, brun. Toi, avec tes millions de choses que tu as étudiées dans la vie, tu as étudié la spéléologie.
Ben, en fait, la spéléologie, il n'y a pas de cours universitaire pour ça ou de cours... De cours, peu importe. C'est vraiment, tu sais, des gens qui apprennent ça sur le tas, un peu comme la taxidermie. Tu vas visiter des cavernes, tu fais des formations en escalade, en descente sur corde, des formations de secourisme. Tu sais, tu fais plein de formations qui vont te mener à devenir un spéléologue.
OK, fait que c'est ta passion qui t'amène à faire quelque chose de professionnel.
C'est ça, exact. Il n'y a pas vraiment de cours là-dedans. En fait, le cours le plus rapproché que tu peux faire qui a rapport là-dedans, ça va pas être un cours technique qui va te dire comment te comporter dans une caverne, mais ça va être le cours que j'ai fait, soit géologie, qui va t'informer sur la création de ces cavernes-là, ou géographe, qui est aussi une... Tu sais, la géologie est plus poussée sur le souterrain, et puis l'étude des pierres, l'étude des roches, pas des pierres, ça c'est gémologie, là. Oui. Fait que l'étude des roches et la formation de toutes les mines, puis les gisements, ces choses-là. Tandis que la géographie, donc si tu es géographe, tu vas étudier plus qu'est-ce qui est à la surface. Fait que tu vas étudier, mettons, les niveaux de la mer, les montagnes, les collines, tout ça, ce qui est super important aussi en spéléo pour savoir tes niveaux d'eau, tes choses comme ça. Fait que c'est toutes des études que tu peux acquérir qui vont t'aider dans le milieu de la spéléo.
Mais la spéléo, c'est vraiment...
C'est un sport.
C'est un sport!
C'est un sport!
C'est-tu des Olympiques?
Non. Mais tu sais, c'est vraiment l'étude des cavernes, mais c'est quelque chose qui va être sportif. Tu sais, quand tu vas dans une caverne qui est super touristique en général, c'est aménagé. Ils ont aménagé
des escaliers.
Oui, des escaliers, puis... des chemins, des ascenseurs, des lumières.
Mais... Ah, ça peut aller jusqu'aux ascenseurs.
Oh, oui, il y a une caverne, Old Cavern, je pense que je suis allée dans l'État de New York. Tu arrives là, puis tu sais, c'est super bien aménagé. Tu rentres là, tu rentres comme dans un ascenseur où tu voyages dans le temps, puis ils t'emmènent, ils descendent dans la caverne, tu arrives à genre 200 pieds sous terre en ascenseur. Mon comme Dieu. Un ascenseur dans une mine, là, dans le fond, qui va descendre sous les paliers.
Ouais, mais ça, c'est parce que c'est pour la convenience des travailleurs, là, quand c'est dans un ascenseur d'une mine.
Puis, ils ont des parkings pour les autobus, ils reçoivent des gens tous les jours, c'est 30$ par personne rentrée. Fait que, eux autres, c'est vraiment un roulement. Là. Il y a même
c'est touristique.
Il y a même des bateaux dans la caverne que tu embarques dedans, puis tu fais un petit tour de bateau dans la rivière souterraine.
What?
Fait que, c'est ça. Ça, c'est vraiment touristique. On n'appelle pas ça de la spéléo. Spéléo, faut que tu sois sale pour faire la spéléo.
Faut que tu mettes ton petit casque avec ta petite lumière puis tu rampes dans des... Mais moi, c'est quelque chose que ça me fait vraiment peur. T'sais, des fois, là, je vois ça à la télé, là, des gens là, qui vont se faufiler là, dans des petites craques. Puis c'est comme, eux autres, ils trippent. Ils sont comme, « Oh, j'ai juste assez d'espace pour passer! » Puis
tu vois, c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment pas... J'ai une genre de claustrophobie dans un endroit que je suis pas capable de sortir, mais je suis pas claustrophobe sous terre. J'ai plus de la misère avec les grands espaces.
OK, comme les hauteurs, supposons au top d'une montagne, les grands vides.
Ou mettons être dans un grand stade, là, où je me sens pas bien.
Ça, c'est la peur du vide.
C'est ça. L'espace, oublie ça. Jamais je serais capable d'être dans une fusée dans l'espace,
fait pour toi,
même si ça m'intéresse.
D'une caverne, vu que t'es comme...
Renfermée. Je suis dans mon cocon, je suis dans mon espace, c'est frais, j'aime les pierres, j'aime la géologie, j'aime la vie, la faune aussi qui vit ça, dans les cavernes, c'est vraiment différent.
Y a-tu tant des bébites dans le fond des cavernes?
En fait, c'est que y a beaucoup d'espèces animales qui ne peuvent pas vivre sans lumière. Donc, ils n'iront pas loin dans la caverne. Ils vont rester comme sur le bord. Comme, mettons, un ours qui a besoin d'une tanière ou quelque chose comme ça. Ils vont rester dans l'entrée pour être tout le temps capables de sortir à la lumière du jour, puis ça va être comme leur maison.
Ouais.
Plus tu vas loin dans une caverne, c'est sûr que ça va dépendre du climat où on est. Donc, si on est au Québec, dans une caverne qui, en hiver, la température va rester la même pas mal qu'en été. Fait qu'il va faire à peu près tout le temps 8 degrés. Okay. Fait que même s'il fait 30 degrés à l'extérieur, il fait 8 degrés dans la caverne.
Puis même ça reste s'il comme fait ça, moins 20 dehors,
il va faire 8 degrés dans la caverne.
Wow.
Le climat reste tout le temps le même. Donc, c'est difficile au Québec, avec ce climat-là, 8 degrés, c'est pas chaud, l'eau n'est pas chaude, l'eau n'est pas chaude. Donc, on va pas mal juste avoir les chauves-souris qui sont capables de vivre dans le noir, qui vont vivre dans les cavernes. Sinon, il va y avoir des araignées, des choses comme ça. Mais il n'y aura pas vraiment de vie. Tu sais, il y a des animaux qui vont se perdre dans des cavernes. Ça arrive fréquemment de se promener dans des cavernes puis de découvrir comme un cadavre d'animal qui s'est perdu, qui voit rien, qui est décédé là, pas capable de sortir. Okay. Tu sais, ça m'est arrivé là, une fois. Mais là,
on n'a pas, supposons, des petits poissons qui ont évolué, en fait, pas d'yeux.
Je vais te dire la différence entre une caverne puis une grotte après. Mais okay, quand on va être dans une grotte, on va avoir un cours d'eau qui va dans la caverne. Donc, il y a souvent un courant. Le courant peut amener des écrevisses, des petits poissons, puis des choses comme ça. C'est pas des poissons qui vont vivre seulement dans la caverne. Ça va être des poissons qui vont comme suivre le courant puis qui vont être là. Donc oui, c'est possible d'en trouver. Par contre, mettons, quand on va plus dans un climat qui va être plus chaud. Mettons, j'ai fait beaucoup de cavernes au Mexique. Oui. Dans l'intérieur des cavernes, il doit faire à peu près 22 à 25 degrés.
Ah, c'est chaud!
Oui, c'est ça, c'est chaud. Là, il fait pas froid. C'est sûr que l'eau est quand même plus froide. C'est de l'eau douce, c'est plus froide que la mer, là, parce qu'elle n'est pas réchauffée par aucun soleil. Puis c'est de l'eau du souterrain.
Je m'attendais à, même si une caverne était plus dans un climat tropical, il y aurait quand même cette fraîcheur-là.
Mais c'est très frais quand même quand tu dis que c'est humide puis qu'il fait 20 coq, tandis que tu sors à l'extérieur puis il fait 35, ça rafraîchit quand même beaucoup. Je te le dis que c'est quand même frais, mais tu sais, on se baigne dedans puis on est bien. T'sais, à rentrer, on fait comme ouh, tu sais, l'eau est peut-être à genre 75 là, tu sais, degrés Celsius comme dans nos piscines. À 75, rendu à 30 ans, tu trouves ça frette, là. Mais je me souviens que je me baignais à 60 quand j'avais genre j'avais 7 ans,
ben
là,
oui,
il faisait 60.
On est jeune, on s'en fout, mais quand on est des madames, l'eau est fraîche.
Ah non, moi en bas de 85, là, j'ai de la misère. Mais c'est ça, je te disais, à peu près 75 à 80 l'eau, fait que tu sais, tu rentres dedans, elle est fraîche, mais après ça, tu es tellement un peu obnubilé par la grandeur puis la beauté de la place que tu t'habitues à l'eau puis t'es correct. Puis tu peux toujours aller avec un wetsuit puis tout, mais c'est ce qu'on suggère ici, surtout au Québec, de mettre des wetsuits.
Mais là,
puis,
à 8 degrés,
ouais, comme ça.
T'en as visité beaucoup, des cavernes?
Ben c'est ça, je te dis. Maintenant qu'au Québec, on n'est pas la place qui est qui a le potentiel d'avoir des cavernes tant que ça, malgré qu'on a un sol qui est sédimentaire. Le sol sédimentaire, en fait, la roche, c'est de la roche calcaire, donc ça se dissout dans l'eau. Donc, c'est parfait pour créer des tunnels souterrains. Mais la roche, elle n'est pas assez vieille pour qu'il y ait beaucoup de cavernes. Donc, il y en a plein. On peut trouver des exemples à la surface, là, des petits creux creusés dans la roche ou quand il y a des affaissements de terrain, des fois, c'est parce qu'il y a des vides sous terre, des choses comme ça. Donc, oui, il y en a, mais rien d'exceptionnel, tu sais, que quand tu vas visiter, tu fais « wow », tu vois ça. Il y a trois cavernes, en fait, il y a 5 cavernes qui sont plus populaires ici au Québec. Même il y en a 6. La première, on va avoir la caverne La Flèche qui est dans le coin de Gatineau. Très touristique, là. Okay. Mais en même temps, c'est quand même intéressant de voir parce que moi, quand je suis allée là, je pense avec ma philosophie que j'étudie en géologie, puis je peux voir plus loin qu'il y aurait du potentiel que la caverne continue, mais des fois, ils sont obstrués par de la terre. Fait que tu sais, tu pourrais dire, OK, on pourrait creuser, on pourrait faire ci, puis peut-être que les tunnels continueraient.
Oui, mais ça coûte beaucoup d'argent, c'est des travailleurs, puis tout.
Exact. Fait qu'il y a cette caverne-là qui est quand même très touristique. Il y a la caverne où j'ai travaillé, la caverne Saint-Léonard, là, en fait, j'ai
travaillé dans une caverne?
Oui, bien, en fait, j'étais comme un genre de guide touristique, là, j'avais 18 ans. Puis on faisait des présentations avec les enfants, là, comme des diaporamas qui présentaient les stalactites, les stalagmites, puis tout ça. Je vais en parler un peu plus loin après.
Ah, parce qu'on en a de ça au Québec.
Ben c'est ça. C'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage avec cette caverne-là. C'est que c'est une caverne que tout le monde dit « Ah, il y a une caverne à Montréal, les gens vont la visiter. » Mais même moi, je trouve que ça me déçoit un peu comme espace. Je pense qu'ils ont agrandi la caverne depuis que j'ai travaillé là. Donc peut-être que là, ça serait plus intéressant d'y aller. Mais c'est une petite caverne qui est tout petite. Puis, c'est vraiment pas grand, là. C'est, à mon avis, c'est pas très impressionnant.
Okay.
Ben, tu sais, comparé à des grosses cavernes que j'ai visitées ailleurs. Mais c'est sûr que, tu sais, pour des enfants ou des gens comme ça, c'est cool, là. C'est dans un parc, en plus. Fait que dans un parc dans Saint-Léonard, il y a une caverne sous le parc.
Vraiment, pour voir des cavernes super intéressantes, il faut vraiment sortir.
Ben, en fait, ce qui va être intéressant, ça va être les formations géologiques. Donc, qu'est-ce qui va être les stalactites, les stalagmites, les rideaux de bacon qu'ils appellent, là. C'est genre des
ouais!
En tout cas, des grosses stalactites qui ont différentes couleurs dedans, tout ça, des lacs miroirs souterrains, des trucs comme ça. Mais ça, c'est que pour grandir un stalactite, plus que l'air ambiant est chaud, plus que l'eau va dissoudre la roche, ouais. Fait que plus que les stalagmites vont grandir rapidement. Si on est dans un environnement comme au Québec, qui est à peu près à 8 degrés dans les cavernes, je pense que ça prend 10 000 ans avant de former un centimètre de caverne, un centimètre de stalactite.
C'est sûr, quand tu veux faire une caverne touristique, tu peux pas attendre 10 000 ans. Fait que,
non, c'est ça. Fait que, ici, je pense que les plus grosses stalactites au Québec qu'on a vues, c'était 10 centimètres, là.
C'est pas impressionnant, ouais.
C'est ça, c'est pas très impressionnant, tandis qu'au Mexique, si tu dis que je pense que c'est 1 cm par 100 ans, quelque chose comme ça, bien là, pour la même période de temps, on a des stalactites qui font 25 pieds de haut, là, tu sais.
Puis ça, c'est quoi la consistance du stalactite?
C'est en fait l'eau de surface qui va ruisseler dans les fissures de la roche, puis en ruissellant, elle va dissoudre les minéraux dans la roche calcaire. Okay. Fait que les minéraux vont se trouver dans l'eau, et puis quand elle va dégoutter goutte par goutte dans la caverne, parce qu'elle a repassé à travers le sol, bien, elle va laisser la couche de minéraux, puis c'est juste l'eau qui va dégoutter. Fait que tous les minéraux qui étaient dans l'eau vont rester collés au plafond. Fait que ça va grandir tranquillement pour te faire un stalactite. Puis aussi, même chose, des fois, il en reste... Puis, ça là, va faire un stalagmite avec les minéraux qui vont se déposer en bas.
Fait que ça, en bout de ligne, ça peut faire des genres des de colonnes grosses colonnes.
C'est ça, une colonne qui appelle quand ça se rejoint. Fait que c'est ça qui est vraiment impressionnant quand tu vas dans des pays où le climat est plus chaud parce que tu peux voir des structures qui sont vraiment magnifiques. Puis des fois, les eaux sont tellement claires. Il n'y a aucun polluant dans l'eau. C'est de l'eau super, super... En tout cas, super clair.
Oui, oui. Mais j'ai vu des photos là, que tu avais partagées, là, comme quoi que tu te baignais dans le fond d'une grotte. Oui,
ouais, exact.
C'est assez weird.
Mais tu sais, il faut faire attention pareil. Tu sais, mettons, je te raconte une anecdote.
Vas-y!
quand je suis allée au Mexique, on avait booké comme 15 cavernes. Moi, j'en avais une à tous les jours, puis je voulais toutes les faire. Puis des fois, il y a quand même beaucoup de plongeurs puis de pélologues qui vont faire des tours dans des cavernes qui sont un peu moins touristiques. Mais ça fait quand même un mouvement dans l'eau. Puis là, on est allé pendant la COVID, donc il y a quasiment personne qui allait dans ces cavernes-là. L'eau était stagnante un peu, puis les chauves-souris faisaient caca dans l'eau. Fait qu'il y avait comme plein de caca de chauves-souris sur la surface de l'eau, mais que d'habitude, que ça passe avec le mouvement des l'eau de l'eau quand c'est pas stagnant. Et moi, j'ai quand même décidé d'aller me baigner. Là, j'étais juste comme « whatever ».
Ah ouais, je suis là, je suis game, let's c'est go! Ça.
J'ai pogné un otite, là, une infection là, solide aux oreilles. J'ai fait de la fièvre là, pendant 4 jours intense. C'était la COVID. Écoute, au Mexique, il y avait le gun à température là, qui prenait à tout le monde. Puis tu peux pas rentrer si tu faisais de la fièvre. Hey, je faisais de la fièvre, je pouvais pas aller nulle part. On restait en plus dans une genre de petite tente en bambou sur le bord de l'océan. Là. C'était comme un genre de tipi. Puis, écoutez, cette journée-là, il y a eu un ouragan.
Nice!
Il est arrivé drette sur Tulum. Toute la moitié du restaurant, toute la moitié de l'hôtel était tombée à l'eau. L'eau qui on avait un bon genre, je te dirais 200 mètres avant de marcher jusqu'à l'eau. Ben l'eau, il n'y en avait plus de plage.
Jusqu'à dans ta
ouais, ouais. Il y a des gens qui étaient blessés parce que les miroirs dans leur tipi avaient tombé puis tout ça, c'était cassé. Moi, je faisais de la fièvre, je ne pouvais pas aller nulle part. J'étais pognée là. Je t'ai dit, histoire d'horreur, encore une fois. Je suis vraiment chanceuse avec ça. Mais
c'est chanceuse, ça, non, pas vraiment.
Ben, en fait, ça fait des expériences de vie que je suis comme... Il n'y a personne d'autre qui a vécu
ça.
C'est
ta vie, c'est ça, en général. C'est tout le temps comme des histoires.
Parce que je pense pas assez. Des fois, je réfléchis pas assez à qu'est-ce qui pourrait avoir comme conséquence.
On est tellement différentes là-dessus. Ouais. Moi, je suis tellement analytique. Genre, comme non, je ferai pas ça parce qu'il peut arriver ça. Toi, t'es comme... Ah, let's go! Go fuck for off! Il arrivera ce qui arrivera. Ce seront des belles histoires. Puis, exact. À toutes les fois, là...
En tout cas, j'ai fait pas mal de cavernes au Mexique. Puis à toutes les fois que je vais, tu sais...
Mais est-ce qu'il y a des cavernes ou est-ce qu'il y a genre... t'arrives là, puis il y a comme des genres de gros cristaux ou...
Mais en fait, non. Parce que tout ce qui va être cristallisé dans une caverne va être dans le groupe des carbonates, qu'on appelle. Ça va être des minéraux qui se forment avec la dissolution de l'eau. OK? Parce que c'est comment que ça, les cavernes se créent comme ça. Tout ce qui va être quartz puis les gros cristaux comme ça, ben ça, c'est dans d'autres types de roches. Là. C'est dans des pegmatites. Puis d'autres, on rentre dans des silicates, tout ça. Ça, ça va être des formations géologiques qui vont être trouvées par l'homme quand ils font du dynamitage, du forage pour les mines, puis tout ça. Okay, ça sera pas dans des cavernes.
Ça se crée naturellement. Là. Faut vraiment
ben, ça se crée naturellement, mais c'est pas dans des cavernes.
OK.
T'sais, pour avoir, on peut fabriquer des cavernes man-made. Là. Je le sais que, mettons, comme justement dans la province de Chihuahua au Mexique, ils ont une grande mine où ils ont ouvert une salle avec une porte là, blindée. Là, parce que je pense qu'il fait comme 80 degrés dans cette pièce-là. Il faut que tu y ailles avec un suit. C'est comme une pièce qui est super hermétique. Puis là, la solution, il y a du sélénium, quelque chose dans l'eau. Puis s'il y a des cristaux qui sont encore en train de pousser dans cette solution-là. Mais tu vois, ça n'aurait pas été une caverne qui aurait été en contact avec l'air parce que c'est vraiment des milieux hermétiques où les cristaux poussent parce que le gaz, la température, l'eau, tout ça est pogné ouais. ensemble. Donc, si on a une caverne qui est ouverte à quelque part, qui a de l'air qui passe à l'intérieur, mais ce genre de cristaux-là ne peut pas pousser. Tu sais.
Okay, fait que c'est la différence entre une caverne et une mine.
Ouais, la mine est vraiment mine est faite par l'homme. Exact. Mais une caverne, ça ne l'est pas. En fait, le terme caverne va regrouper toutes les grottes sont des cavernes, mais pas toutes les cavernes sont des grottes.
OK. Là, moi, je vois pas en toute la différence. Okay. Il faut que tu me l'expliques.
OK. Donc, une caverne, ça va être un trou naturel sous terre.
Parfait.
Ça peut être d'origine tectonique, les glaciers qui ont fondu, qui ont fait un trou, une rivière qui a creusé sous l'eau,
ouais.
Un arche dans un canyon où tu peux aller en dessous, puis une caverne. Ça, c'est toutes des cavernes. OK. Une grotte, c'est vraiment creusé par une rivière souterraine.
OK.
Fait que c'est juste à cause de l'eau qui va te creuser ça. Ici, en général, vu que le sol, c'est du calcaire, on a vraiment des grottes qui sont creusées dans le calcaire. Il y a beaucoup de grottes qui ont été creusées. Tu vas à l'intérieur, puis les tunnels sont vraiment arrondis en eau, mm-hmm. ouais, comme arrondis en haut, parce que l'eau va éroder, tu sais, pour faire son courant. Fond. Fait que tu vois vraiment les courants de l'eau qui sont sculptés dans le mur, tandis qu'une caverne qui va pas être d'origine d'une rivière, ben va avoir des formes plus carrées, plus ouais, ça sera pas
comme,
un
comme
tunnel.
Tu dis, les plaques tectoniques, les tremblements de terre qui font en sorte que ça fait des cracks.
Ben c'est ça. En fait, la caverne de Saint-Léonard, Saint-Léonard que je t'ai dit qui était pas super. Ben en fait, pour quelqu'un qui a visité une première caverne, c'est parfait. T'as pas à creux. T'étais pas un petit bonhomme en train de d'avancer dans un trou. Là. Celle-là, c'est d'origine glacio-tectonique. Ça veut dire que c'est la dernière glaciation qui a fait bouger des roches, puis les roches se sont séparées. Donc, ça a creusé un trou. Donc, ça, c'est pas une grotte. C'est seulement une caverne. Tantôt, je continue avec d'autres cavernes qu'on avait au Québec ici. Les deux autres plus populaires, en fait, on a Saint-Casimir, que ça vaut super le détour. Je pense que vous devez appeler la Société québécoise de Spéléo, vu que c'est peut-être à eux le terrain pour avoir l'autorisation pour y aller.
Okay.
C'est une caverne qui dure à peu près une heure et demie à deux heures de faire le tour. Il y a toujours des nouveaux tunnels qui sont creusés toutes les années. C'est quand même bon de checker la map et de checker pour être sûr que tu vis à l'étude, de ne pas vous perdre là-dedans. Puis d'avoir tout le temps une bonne lumière puis d'être bien équipé.
Je pense que c'est la base. Je veux dire, je m'en vais inspecter un trou, je m'amène
non,
pas de lumière.
Non, mais tu sais, des fois, des ados qui savent qu'il y a une caverne qui vont là, qui vont avec une flashlight, puis la flashlight meurt. Là. Écoute, t'es mal pris, pas à peu près. Là. Tu vois rien. Là.
Y a-t-il déjà eu des cas au Québec, justement, dans ces cavernes?
Tu vois, j'en ai jamais entendu parler.
En tout cas, j'espère que non.
Non,
là,
mais c'est ça, mais ça se pourrait très bien, là, tu sais. On a aussi Bois-Châtel qui était ouvert pendant quelques années au public, qui ont maintenant fermé l'accès au public. Ça, c'est j'avais un ami qui travaillait à cette caverne-là. On était ensemble. Puis il m'a expliqué pourquoi. Puis ça, c'est quand même freakant, là, en fait.
Vas-y, raconte.
Oui, l'entrée de la caverne se trouve sur un terrain de golf à Bois-Châtel. Mm-hmm. Puis de l'autre côté de la rue, ils faisaient du dynamitage pour faire des nouveaux terrains et tout ça. Puis ils sont allés avec un groupe de gens. La caverne fait environ 3 km de long. Puis ils sont allés, je pense que c'est une journée complète, c'est 6-7 heures, là, faire le tour. Puis ils sont allés, puis en revenant, ils ont remarqué qu'il y avait un bloc de roche de la taille d'un automobile qui s'était détaché du plafond.
Non.
Puis qui avait tombé. Mais il n'était pas bloqué sur terre, heureusement, parce que c'était dans une grande chambre, donc il y avait encore l'espace pour passer. Mais c'est pour ça ça veut dire que
ça aurait pu,
ça aurait pu tomber sur eux autres.
Il dynamitait plus loin.
Juste à côté, ça l'a vibré, puis ça l'a fait tomber le bloc. Fait que ça, c'est des affaires un
peu. Ça, c'est des affaires qui me fait pas dormir la nuit, là. Tu sais, ouais. Supposons, sachant, là, demain, supposons, tu me dis, mais on s'en va visiter une grotte, puis tout. Puis j'entends ces histoires-là avant d'y aller. Je suis comme, non, c'est clair, j'y vais pas. Non.
Puis il faut faire attention aussi, parce que, mettons, il y a ici, en Alder, on a le trou de la fée à Grabtree. Que
oui,
j'ai,
ça, j'en ai entendu parler.
J'ai essayé d'y aller 250 fois dans ma vie.
Ça, c'est, pour moi, c'est comme une légende. Tout le monde, tu sais, je suis de la région, ouais. Fait que j'en ai entendu parler beaucoup, mais je ne l'ai jamais vu.
Bien, en fait, c'est que tu vas là, tu rentres, tu fais à peu près 50 pieds, puis il y a de l'eau. Donc,
OK, c'est pas...
C'est que tu peux pas
ça avait l'air plus impressionnant quand j'étais plus jeune.
En fait, j'ai vu des photos quand même de la caverne, tout ça. Peut-être dans les temps où le niveau de l'eau est plus bas, là, comme ça, tu peux y aller, parce que c'est quand même... ça prend quand même 200-300 mètres là, de caverne et plus. Okay. Là. Mais je pense que là, depuis un certain temps, la caverne est toujours remplie d'eau, donc il faut que tu te mettes un tuyau pour pomper de l'eau pour le pitcher dans la rivière à côté pour pouvoir y accéder.
Trop compliqué. Non.
Mais en fait, ça fait penser à... Ils ont sorti un film là, sur... Je sais pas si tu l'as vu. C'était les enfants en Thaïlande là, qui sont restés pris dans la caverne.
J'ai pas vu le film, mais j'ai suivi cette histoire-là. Ouais. Genre live quand que ça se passait, puis ça me stresse tellement. T'es pogné d'une grotte, dans le fond d'une grotte, puis le seul moyen de revenir, c'est faut que quelqu'un vienne te chercher avec une bonbonne d'air, puis t'es comme, c'est
ouais,
quoi, il... 6h, 7h, en
ouais,
dessous de l'eau?
Puis ils ont anesthésié parce que les enfants étaient trop jeunes, parce qu'ils avaient paniqué. Puis en fait, quand tu paniques avec une bonbonne d'oxygène,
ça
ben,
prend
c'est
plus
encore plus.
D'oxygène,
plus.
Fait qu'il n'y en aurait pas eu assez pour deux.
Exact.
Non.
Fait qu'il y a un à la fois.
Il n'y a eu aucun décès, tout le monde a survécu.
Il y a eu
ça.
Un décès, c'était un membre de ouais, l'équipe des marines, mais je pense que c'est parce qu'il a pogné un virus dans l'eau. Puis sûrement comme moi, un genre de titre ou quelque chose, puis il est mort.
Non, mais tu sais, je veux dire, il n'est pas mort sur le coup à la traversée. Là. Ça a été une conséquence de la traversée, ouais. Mais... Ah ouais. Non, ça là, non.
Les
non,
enfants, ils ont toffé 10 jours, 14 jours quasiment, là. Puis ils ont retrouvé, là, tu sais, ils auraient pu juste abandonner parce que c'était trop dangereux, puis garde de se dire qu'ils étaient déjà morts, puis comme... Le mois d'après, quand c'est la moisson, là, je pense, la mousson, quand l'eau aurait rebaissé, ouais. Il serait arrivé, puis il y aurait eu juste comme un groupe d'enfants décédés là, qui n'étaient même pas dans l'eau. Oui,
mais ça me bloque du fait d'aller visiter des grottes
mais
ou des cavernes.
Ça,
ou...
c'est des histoires avec elles, ils ont fait des films. Mais sinon, il y a des gens à tous les jours qui vont dans des cavernes, puis il se passe à rien.
Je sais, comme qu'il y a des gens à tous les jours qui prennent l'avion et ne crachent pas, mais je ne prends quand même pas l'avion. Tu sais, je... Mais ouais. Je peux comprendre ta passion parce que tu as une fascination comme pour les pierres, les minéraux, tout ça. Mais
le monde du terrain.
Le monde du terrain, puis, les petits espaces.
En fait, tu sais, je vais en profiter comme d'habitude pour faire un peu de pub sur mes 2000 projets.
Ben oui, vas-y.
C'est ça. Dans le fond, nous autres, on passe beaucoup de temps au Mexique l'hiver justement parce que c'est une région que, bon, on est dans le Quintana Roo, Yucatan. C'est les régions où il y a le plus de cénotes. Des cénotes qui sont des trous naturels aussi creusés par la dissolution de l'eau. Fait que c'est des grottes. C'est vraiment des grottes. Puis je trouve que l'histoire entourant cette région-là, pour ceux qui sont un peu aussi dans la lithothérapie, le taux vibratoire est super élevé, mais c'est parce que la vibe est bonne. T'sais, la vibe dans ce coin-là est bonne. C'est des lieux qui étaient sacrés des Mayas. De ce peuple-là. Puis on peut vraiment voir la population alentour qui voit ces trous-là comme des trous d'ouverture vers le monde des morts. Donc, moi, c'est ça qui me fascine dans cette.
Intéressant.
Dans cette, c'est pas juste les cavernes. J'adore les cavernes.
C'est pas juste
là,
un
en
trou
plus,
dans la roche.
C'est ça.
Là.
En plus, on a toute l'histoire qui vient avec ça. En fait, eux autres, ils appelaient ça le Xibalba. C'était le monde des morts. Puis l'entrée vers le Xibalba, c'était. Les cénotes. Donc, il y avait un rituel où il fallait qu'ils fassent pour que les dieux acceptent le fait de pouvoir aller dans l'entrée, dans l'eau. Puis, c'est pour ça qu'il y a plusieurs cénotes où on peut retrouver des artefacts, dans le fond, parce qu'il y avait
des
offrandes.
Ouais. Oh, wow.
Comme, mettons, à Chichen Itza, ben, il y avait des offrandes humaines aussi. Là, avec le... Donc, ben, j'ai été visiter Chichen Itza, puis là, j'ai demandé au guide, j'ai dit, je peux-tu aller sauter dans le cénoté? Puis là, il était genre comme... Non, tu sais, c'est sacré, tu peux pas aller là. Mais ils ont retrouvé des pièces en or, ils ont retrouvé des bijoux en malachite, en plein d'affaires sculptées. Il y a des offrandes humaines, il y a plein d'affaires dans le fond, tu sais. Puis il y en a que ça, c'est parce que Chichen Itza, c'est le temple le plus populaire du Mexique. Mais tu en as d'autres petits cénotés où il y a eu ça aussi. Fait que dans plusieurs cénotés, ils ont retrouvé des objets comme ça qui ont été utilisés pour les offrandes aux dieux. Puis d'un autre côté, en fait, ça, c'est si on y va avec la géologie complète de cette section-là, dans le fond, mais c'est ça, parenthèse, j'organise des voyages là. Fait que oui, s'il y a des gens
une de tes nombreuses compagnies.
C'est ça, vu qu'on passe beaucoup de temps projet. Là. J'organise des voyages organisés sur la géologie puis la spéléologie dans cet état-là, au Mexique. Donc, des fois, si ça vous intéresse, soit m'écrire, on organise des groupes d'à peu près 6 personnes pour aller visiter plusieurs cavernes puis voir tout ça.
Une fois ou deux l'hiver. Par année?
Ben, ça va être une à deux fois, dépendant des groupes là, qui vont se présenter. Donc, si ça vous intéresse, écrivez-moi pour lui.
L'hiver, quand c'est plate au Québec, c'est ça.
On va pas juste dans les cavernes, là, on va visiter d'autres choses vraiment cool aussi.
Il y a de la bonne tequila, ça a l'air aussi.
Oui, puis des bons tacos, je trouve ça. La bouffe mexicaine.
Puis, oh, ça, je te l'accorde.
En fait, c'est ça, il y a beaucoup de compagnies qui font de la plongée sous-marine dans les cavernes. Fait que c'est comme ça qu'ils vont récupérer les artefacts, là, parce que ça peut être très profond.
Est-ce que les touristes peuvent aller comme...
Tu peux aller faire de la plongée dans les cavernes, mais tu dois avoir...
ramener les artefacts,
tu peux pas ramener les artefacts. Là, mais tu dois avoir tes certifications de plongée, first sous-marine, puis deuxième... En caverne. Okay, fait que c'est un autre cours.
C'est pas boboche, là. C'est du sérieux.
Non.
Là.
Mais en même temps, c'est quand même boboche parce que... non, mais la caverne... La certification de caverne souterraine est pas boboche parce que c'est pas... Excusez, je veux pas être péjorative. Mais c'est pas des Mexicains qui donnent le cours, OK? C'est vraiment des spéléologues qui connaissent le travail, qui vont te donner un cours accompli puis vont s'assurer que tu sois compétent avant de te lâcher tout seul dans une caverne.
Non, mais ils veulent pas que tu creves aussi.
Parce que, dans le fond, quand tu fais de la plongée en océan, tu te dis, OK, faut que tu fasses des paliers. Tu sais, tu peux pas remonter d'une shot en haut. Mais quand même, s'il y a de quoi, tu remontes puis tu iras dans une chambre de dépressurisation puis comme tu peux aller chercher ton air. Dans une caverne souterraine, si t'es 3 km... Tu peux pas aller chercher ton air en remontant. Tu dois faire 3 km du chemin à l'envers pour retourner à la surface. Puis il fait noir. Et tu sais, je veux dire, les ressources sont vraiment différentes. Par contre,
c'est apprécié d'avoir quand même un cours de plongée.
Bien, c'est ça. Mais nous autres, on a essayé de faire le cours de plongée de base au Mexique parce que je n'avais pas ma certification pour les cavernes. Puis écoute, c'est un Mexicain qui nous a donné, deux heures de cours dans une piscine. Puis après ça, il m'a dit « OK, you guys good, you can go in the ocean! » Là, moi et mon chum, on se regarde, on a fait comme attends.
J'ai rien compris.
J'ai rien compris. Là. Ça fait 2 heures, je suis assis à 3 mètres de profondeur dans une piscine. Je dis là, on s'en va à genre fucking
3 kilomètres. Dans
le fond de l'eau, là. Je suis pas prête à ça. Là, là ils nous expliquaient les paliers puis tout ça. Je dis ouais, mais il n'y en a pas de palier à 3 mètres dans la piscine. Là, dans l'océan, il y en a un. Moi, si je commence à paniquer là, dans le groupe, là, je fais quoi? Tu sais, je suis pas assez préparée pour ça. Fait que oui,
non, c'est
oui ça, c'était boboche parce que j'ai eu mon papier de certification puis j'ai rien compris. Puis tu sais, il te montrait comment, genre, enlever ton masque pour souffler comme ça pour que l'eau sorte, là. Parce que des fois, tu as de l'eau qui rentre. Ouais. Mais comme faut que tu respires en même temps, comme ça, l'eau, elle rentre pas dans ton masque. Hey, combien de fois j'ai eu de l'eau qui m'a rentré dans le nez puis j'ai remonté à la surface pour respirer parce que j'étais en train de m'étouffer. Sérieusement, ne faites pas des cours de plongée au Mexique par des Mexicains qui coûtent 60
pour les touristes.
Non, faites pas ça.
C'est plus un petit peu plus ça. Professionnel.
Exact. Moi, je conseillerais de faire le cours certification 1 ici au Québec là, avec des instructeurs que tu vas avoir plusieurs cours puis des examens puis des choses comme ça. Puis après ça, d'aller faire un cours en certification de caverne là-bas. Là. Je pense que c'est le plus safe parce qu'à toutes les années, il y a des gens qui meurent dans les cavernes, mais vraiment à cause de la plongée, pas à cause du... De pogner dans un trou. Mais c'est à cause de la plongée parce que c'est un sport qui est très, très dangereux. Puis, en fait.
J'ai l'air d'aimer ça, les trucs dangereux pareil. Parce que. Non, à toutes les fois, des fois, je t'écoute parler. Ah, j'ai une passion de telle affaire. Moi, je suis comme, non, vraiment pas. Non, tu me rejoins pas là-dessus.
Non, j'aime ça, le thrills.
Non, je suis pas jackass.
Fait que, en tout cas, si je continue, là, ça, c'était ma parenthèse de voyage organisé au Mexique. Non, on fera pas de la plongée dans les cavernes, mais on va aller visiter des cavernes au Mexique.
Fait que monsieur, madame, tout le monde, bref, ne peut pas aller faire de la plongée sous-marine dans le fond d'une caverne.
Non, mais monsieur, madame, tout le monde peut participer à mon voyage.
D'accord. Ben, t'as une certification.
Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis quand même correct pour rappel à la corde, descente, escalade, sauvetage en caverne, tout ça, regarde, il n'y a pas de problème.
Pas de problème.
si je continue sur mon côté, je prends des chemins et des chemins.
Mais il y a tellement de choses à parler.
J'ai tellement de choses à parler. Puis là, je vais chercher mon enfant à l'école bientôt.
Laisse-les là!
Fait que, c'est ça. Dans le fond, si on parle de l'origine des cénotés qui vont être au Mexique puis dans cet état-là, ce qui me fascine le plus, c'est que ça viendrait des dinosaures. Ça viendrait de l'extinction des dinosaures qui auraient... parce qu'ils ont dit que les dinosaures se sont extincts à cause... Excusez pour ceux qui pensent que les dinosaures n'ont pas existé. Moi, je pense que les dinosaures existent.
Mais attends, moi, de ce que j'ai entendu dire...
J'arrête pas de voir les affaires de même.
Ce que j'ai entendu dire dernièrement, c'est que... tu sais, il y a la théorie là, que justement, il y a une comète qui serait tombée, que ça aurait éteint les dinosaures. Mais il y a quelqu'un qui a sorti la théorie de... Non, ça serait des volcans qui aurait tué les dinosaures.
Mais en fait, que ça soit l'un ou l'autre, c'est la
poussière. Ça, le principe est le même.
C'est ça, c'est la poussière dans l'air qui va faire que tout le monde s'est comme intoxifié, puis
qu'il y a eu
le soleil,
ben,
puis qu'il
y a eu des années, de glaciation là, un hiver qui a duré.
Ben ça peut-être après. Je te dirais pour les dinos, c'était vraiment que j'étais pas là.
OK, mais ta théorie, toi, tu allais dire, c'est?
Le plus logique pour toi. Moi, je pense que la comète est une bonne théorie parce qu'en fait, le cratère est au Mexique, puis le cratère s'appelle Chicxulub, puis c'est dans cet état-là.
OK.
Ça serait un des plus gros cratères qui aurait tombé à cette époque-là qui coïnciderait avec l'époque où les dinosaures ont disparu. Fait moi, je pense que c'est quand même une théorie qui aurait du sens, mais ça peut être les volcans aussi. Ça peut être un mix de tout ça. Ça peut être la météorite qui est tombée qui a fait rentrer les volcans en éruption parce que ça l'a brassé à terre. Ça peut être tout ça, tu sais.
Ça peut être sûrement ça.
Mais c'est sûr que c'est la qualité de l'air puis la poussière qu'il y avait dans l'air parce que toutes les créatures marines en profondeur ne sont pas décédées, même ils existent encore aujourd'hui.
À cette période-là aussi, c'est qu'il y a eu vraiment beaucoup de dépôts au sol pendant un très court laps de temps qui fait en sorte justement que, bon, c'est soit une météorite, soit un volcan. Puis ça, dans ce dépôt-là, justement, y a-t-il des choses spéciales qu'on retrouve?
Ben, tu vois, j'ai pas tant étudié ça.
C'est à part des cadavres de dinosaures?
J'ai pas tant étudié cette couche-là de dépôt. Mais tu sais, c'est sûr, l'extinction des dinosaures, ça fait 63 millions d'années. Mm-hmm. Puis... 263? En tout cas, il y a eu comme 200 000 ans, de 200 millions d'années,
millions.
où les dinosaures ont régné sur Terre, puis se sont toutes comme éteintes d'une shot, donc c'est sûr qu'il y avait de quoi qui est arrivé.
À part quelques exceptions.
C'est ça, tu sais, tout ce qui était les rats, les souris, mais dans cette famille-là, c'est pas des rats et des souris à le temps, là, mais les ammonites, les trilobites, toutes les affaires de marins, en fait, qui sont pas des mammifères, là, eux autres sont comme toutes restées en vie, donc eux autres, ils ont pu survivre à ça. Mais tout ça pour dire que cette météorite-là ou ce volcaniste-là aurait ébranlé la Terre et ça l'aurait fait craquer le sol au Mexique.
À plein de places.
À plein de places. Oh. Puis là, l'eau se serait écoulée dans ces craques de sol-là puis aurait creusé les grottes. C'est pour ça qu'on retrouve plus de 5000 cénotés dans le Mexique. Ensuite, là, il y a eu tout ça qui a été dernières glaciations, tout ça. Donc, là, il y a eu des animaux. Là, il y avait des mammouths, il y avait des tigres de sable, il y avait plein d'animaux. Il y avait des paresseux géants. Qui faisaient 3-4 mètres de haut. Là,
c'est impressionnant.
Oui, vraiment. Moi, j'imagine juste ça. Là, genre, un gros paresseux marcher dans la forêt.
Moi, c'était plus pour le nom, le Giant Sloth.
Giant Sloth.
Pis, c'est impressionnant.
Ils ont trouvé des crânes de ça gigantesques dans le fond des cavernes au Mexique. Il y a le musée à Cancun, là, le musée d'histoire maya, où ils ont un vrai squelette de saber-tooth tiger au complet.
Smilodon? C'est la même chose? Smilodon?
Je sais pas.
Saber-tooth?
Tigre dent de sable.
Smilodon.
Ça doit être ça. Fait que, en tout cas, ils ont trouvé
c'est
ça.
Le nom que c'est le seul dinosaure que... Ben, dinosaure de... De l'époque, que je reconnais.
C'est pas un dinosaure. C'est un animal.
C'est un mammifère.
Un mammifère.
Un gros lion avec des grosses dents.
Dans la dernière glaciation. Donc, c'est pas, tu sais, un dinosaure, on parle de 60 millions d'années, tandis que le tigre dent de sable, c'est plus genre 10-20 000 ans.
Ouais.
Fait que c'est très récent.
Tu pourrais quasiment avoir un fossile de ça ici.
C'est pas full des. Tu sais, ils sont pas full fossilisés. Il y en a des fossilisés, mais tu sais, je veux dire, pour être fossilisé, il faut que ça ait des millions d'années. Fait que c'est comme ça va être un os qui va être comme dernière glaciation, là. Les crânes de mammouth qu'on va trouver, tout ça, sont pas. Lui, il est fossilisé parce que c'est un stégodon. Donc, ça a quelques millions d'années.
OK.
Les crânes de mammouth qui dataient de la dernière glaciation vont être plus entre le fossile puis l'os. L'os va être durci, mais ça sera pas comme une roche.
Fait qu'on pourrait retrouver encore des squelettes, mais...
Oui, ben ça va être un squelette avec une vieille patine qui va être un peu plus lourd.
Ouais.
Fait que vraiment comme... Mais ça sera pas lourd entre comme une roche.
Entre l'os et la roche.
Oui, c'est okay. Ça. Entre les deux, elle sera pas totalement fossilisée. Fait qu'en tout cas, juste oui. Pour ça que toute plus la... Bon, mais non, il n'y a pas de trouble. Ça que toute la... Tu sais, les cavernes, puis tout ce qui entoure, les sacrifices, puis les animaux qui ont vécu là, puis la faune, la façon que ça s'est formé, les différents climats. Parce que moi, ça me fascine totalement, tout ça.
Et surtout, la croyance locale par rapport ouais. À ces cavernes-là. Comme tu exact. Dis, ça avait un...
L'entrée vers le monde des morts.
Ouais, c'était super sacré.
Il y a plein tout. De légendes par rapport à ça. Puis aussi, comme je te disais, ici, tu m'as demandé s'il y avait des organismes vivants. Puis on a pas mal juste des chauves-souris puis des insectes qui vivent dans les cavernes ici. Là-bas, par contre... Puis tu sais, ici, les chauves-souris, il faut que tu les cherches là, pour les voir.
Petites,
là.
Petites,
là. Puis là-bas, là, tu te lèves ta tête puis t'en as genre...
Wow.
T'en as genre 200 qui sont en haut de toi, des grosses chauves-souris. Puis il y a beaucoup de reptiles puis de poissons qui vivent dans les cavernes, mais qui sont transparents.
Ouais.
Parce qu'ils n'ont pas de pigmentation, ils n'ont pas de lumière.
Ils n'ont pas nécessaire ou ils ont carrément des animaux qui n'ont pas d'yeux.
Ouais.
Parce que pour eux autres, ce n'est pas nécessaire. Ouais. Donc, exact. Dans leur développement, ils ont abandonné ça, les yeux.
Oui, exact. Fou, il y a des poissons pas d'yeux, des oxolotes puis des affaires comme ça qui vivent dans les cavernes. Fait que des fois, là, on va regarder dans l'eau là, avec notre flashlight, puis on va voir des organismes vivants qui vont être là, mais qu'on n'aurait pas vu si on n'aurait pas mis la flashlight dessus parce qu'ils sont transparents.
Puis eux autres, ils ne te voient pas. Là,
non, c'est ça. Eux autres, ils sont dans le noir. Là,
ils perçoivent
aucune lumière. Leurs yeux sont défectueux. Ils marchent au son, vraiment. Comme les chauves-souris, ils marchent au son.
Ben, comme une taupe. Là.
Ben, c'est
une taupe, ça n'a pas tant d'yeux. Ça a des yeux, mais bon.
La dernière fois, j'ai vu une whip spider. Là.
C'est quoi ça?
En fait, c'est comme un scorpion. Mais ils l'appellent whip spider, mais c'est dans la famille des scorpions. Ouais. C'est les genres d'araignées qui ont deux grosses pinces en avant, avec un petit corps plat, mince, puis ils ont comme le corps qui lève avec des pattes minces, comme des fils. Là. J'ai vu ça là-bas.
C'est weird.
Ouais, quand même, tu vois, ça... J'ai pas peur des araignées, mais...
Elle est trop bizarre pour moi.
Je la prendrais pas dans mes mains. Puis toi, tu me dis, toi, tu penses tout le temps à tout.
Ouais.
Puis moi, je réfléchis pas, tu sais. Puis dans ce même trip-là que j'ai pogné mon infection sur le bord de la mer, moi, j'aime ça être nu-pied.
OK.
Fait que là, je marchais nu-pied partout. Puis on est au mois d'octobre.
Super bonne idée.
Ben non,
genre.
Mais moi, j'aime ça marcher nu-pied. Puis à un moment donné, c'était comme, il était la nuit, genre, puis je sors nu-pied de où j'étais. Pour aller faire pipi dehors, là, parce qu'il n'y avait pas de toilette ou je sais pas quoi. Puis là, je rentre en dedans. Puis le lendemain matin, je regarde mon chum, je dis, c'est quoi ça, là-bas à terre? C'était des tarentules. Tu sais, les tarentules, genre avec le corps rouge. Parce qu'au mois d'octobre, c'est la saison d'accouplement des tarentules. Donc, ils ressortent fait à l'extérieur.
En plus, ils sont plus agressifs.
Ouais, ils sont là, là. Puis moi, esti, à moitié endormie, sans nu-pied, marche, m'en va. Lendemain matin, esti, les tarentules un peu partout. Non, faudrait que je commence à essayer de passer avant de faire des affaires.
Non, okay. Ah, je serais pas capable, ça. My God, t'es tellement téméraire. What the fuck?
Bon, okay, bon moi, c'est... Tout le monde seul. Ça veut dire que c'est l'heure d'aller chercher les enfants à l'école.
Moi, il faut que je sorte mes vidanges.
Hey, merci de nous avoir écoutés. Puis, regarde, on se reprend.
On a tellement une vie différente.
Si vous avez des questions par rapport au podcast qu'on vient de faire, écrivez-moi. Puis, si vous êtes intéressé à faire le trip aussi, garde.
Ben, pour des voyages organisés, moi, j'irai voir personne d'autre que toi. Tu connais ton shit.
Un trip de vie assuré.
Puis, un petit peu trop téméraire.
Je garantis pas qu'on ne pognera pas d'ouragan.
Non, ça, tu peux pas garantir ça. Hey, salut tout le monde, à la semaine prochaine. Bye!